Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'AJT du local. C'est parti pour une nouvelle semaine d'émissions autour de l'actualité en Mayenne. Nous sommes aujourd'hui le lundi 12 juin et au menu de cette émission, on va parler eau potable dans le département. Et oui, vous le savez, le sujet est déjà bien dans l'actualité avec déjà plusieurs arrêtés et sécheresses dans le département. Mais aussi une bonne nouvelle avec la rénovation de cette station d'eau potable à l'est de Laval à Saint-Cyr-le-Gravelet. On va voir justement ce que ça va permettre aussi pour la gestion de l'eau dans les prochains mois et les prochaines années. Et puis on va rester tout aussi bien en Mayenne et plus précisément dans le bois de l'Huisserie à la découverte des espèces qui peuplent ce bois. Espèces photographiées par Éric Médard, le photographe naturaliste mayennais, qui va nous expliquer justement comment il travaille et pourquoi pour lui c'est important aussi qu'on voit ces espèces, pour qu'on prenne conscience aussi de l'importance de les préserver. C'est en tout cas tout ce qu'il nous expliquera. Vous entendrez aussi un petit peu les coulisses de son travail qu'on ne soupçonne pas. Donc ça, ce sera lors de l'interview réalisée par Christophe pour Bouger en Mayenne et aussi pour l'autre radio. Et puis plutôt dans une deuxième partie d'émission, on parlera lecture et en l'occurrence, vous pourrez retrouver un coup de cœur de la médiathèque du pays de Château-Gontier. Coup de cœur lecture et plutôt du côté des romans policiers. Effectivement, ça ce sera dans une deuxième partie d'émission dans l'AJT du local. Et comme d'habitude, on commence par trois titres dans l'actualité aujourd'hui, avec notamment ces effectifs de la police nationale. Ils demandent plus d'effectifs. Florian Bercot, le maire de Laval, et Guillaume Garot, le député, ont d'ailleurs écrit à ce sujet au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Ils demandent plus précisément 8 agents pour travailler le partenariat police municipale police nationale pour une présence renforcée dans les quartiers, fin de citation, puisqu'il dresse ce constat, je cite, « Laval, comme d'autres villes moyennes, est de plus en plus confrontée, oui, au trafic de stupéfiants et aux difficultés qui l'accompagnent, fin de citation. » Eux exigent un vrai statut et un vrai salaire. Plusieurs syndicats appellent à une mobilisation devant la cité administrative de Laval demain dès midi et demi pour les accompagnants des élèves en situation de handicap, les AESH. Ils alertent aussi pour défendre l'enseignement spécialisé, donc mobilisation prévue demain dès midi et demi. Et puis en sport, ça y est, un premier titre pour l'étoile lavalloise futsal. Les joueurs ont pu brandir le premier trophée de l'histoire du club. C'était face au Sporting Paris ce samedi. Première ligne dans le palmarès avant peut-être une deuxième ce samedi contre le même adversaire à Caen, où là pour le coup ce sera la finale du championnat. C'est donc à Caen samedi à 20h. Puis je vous en parlais il y a quelques instants, à l'est de la une station d'eau potable rénovée à Saint-Cyr-le-Gravelet, exactement à la frontière avec l'Ille-et-Vilaine. Le résultat d'un projet commencé en 2018 et inauguré la semaine dernière au même endroit que l'usine précédente qui alimente aujourd'hui 20 000 abonnés en eau potable. Une eau qui provient désormais de trois forages, celui de Fauvière, celui de Cruchère et celui de la Jordonnière. Elle rejoint ensuite le château d'eau de la Pinolière. La visite est assurée par Jérémy Danton, ingénieur chargé d'affaires, et Pierre Arthuis qui travaille pour le département.
Donc vous avez sous vos pieds une bâche d'eau potable, accessible par ces trappes, qui est l'eau en fait traitée par cette filière et celle que nous allons vous montrer tout à l'heure, celle de minéralisation qui traite Fauvière. L'idée étant de stocker l'eau avant de la pomper et de l'envoyer vers les réservoirs de tête. Le bâtiment a été construit avec une optimisation énergétique, c'est-à-dire que les quatre parois périphériques ont été isolées par une isolation à l'extérieur. Les pompes et les équipements ont été pris avec des moteurs de fort rendement énergétique, de manière à limiter les consommations d'énergie électrique.
Fabienne Guiguin, chef du service eau au conseil départemental de la Mayenne. L'alimentation en eau potable sur le département de la Mayenne est basée globalement à 60% sur l'eau de surface, donc essentiellement quand même l'eau de la rivière Mayenne que l'on traite, et 40% de l'eau souterraine, donc de multiples captages, c'est à peu près 80 captages sur le département. Et donc le fait de réhabiliter une usine de traitement d'eau souterraine permet de maintenir la diversification de l'alimentation en eau potable sur le département et de réduire quelque part le prélèvement dans les autres surfaces. Donc on a tout intérêt pour l'avenir à maintenir nos captages, les réhabiliter, diversifier, en développer d'autres pour faire face à l'avenir et à nos besoins en eau. L'idée, c'est d'économiser l'eau le mieux possible et d'en prélever le moins possible dans la ressource. Et il y a un captage, enfin une capacité de prélèvement en plus de ce qui existait précédemment, parce qu'il y a une valorisation d'un captage en plus. Donc c'est autant d'eau qui peut alimenter le secteur de Saint-Cyr-Gravelet et éviter de prélever le complément ici pour y venir par exemple du côté de Port-Briet. Donc disons qu'on commence à être en arrêté sécheresse hein, sur le département avec des vigilances hein, qui sont sur le bassin de l'Oudon et également sur le bassin de la Sarthe a priori depuis aujourd'hui. La situation n'est pas encore tendue, mais qu'il faut faire attention. Je pense qu'il faut poursuivre nos démarches d'économie d'eau et de réduction de nos prélèvements à la source pour faire face à un été qui peut s'avérer sec.
On parlait des forages et des puits. Vous avez un ici, hein, le puits des Fauvières, le captage de Cruchère qui est dans le chemin, qui était un forage d'essai qui avait été réalisé, qui était transformé en forage d'exploitation.
Et qui a été extrêmement utile l'été dernier, quand ce puits des Fauvières a connu une baisse de son niveau. C'est-à-dire que Laval Agglomération a sollicité ce forage de Cruchère, qui était à l'arrêt, pour alimenter les usagers en eau potable.
Et la collectivité a aussi annoncé la construction d'une nouvelle usine de traitement de l'eau potable à Changé, annonce qui avait déjà été faite il y a quelques semaines. Je vous propose de faire une petite pause justement en musique avec The National, The Pool of You, et on revient juste après pour parler de cette très jolie exposition photo dans le bois de l'Huisserie, exposition d'Éric Médard.
I'm really
The National, The Pool of You, vous êtes bien dans l'agité du local sur l'autre radio. Et on poursuit évidemment cette émission avec des clichés pris sur le vif, comme si vous étiez à quelques dizaines de centimètres des animaux. Pris sur le vif, c'est d'ailleurs le nom de cette exposition d'Éric Médard, visible au bois de l'Huisserie depuis quelques semaines déjà. Le photographe naturaliste mayennais y présente une vingtaine d'espèces qui vivent dans le bois. Au micro de Christophe Feuillet, pour Bouger en Mayenne et pour l'autre radio, il se confie aussi sur son rapport à son métier et l'importance de cette biodiversité qu'il observe et capture à travers son objectif.
Bonjour Éric Médard.
Bonjour.
Vous nous offrirez une pause nature du 6 juillet au 30 août au centre Initiation Nature dans le bois de l'Huisserie à Laval. Ça sera tous les jours de 14h à 18h. Avant de parler de cette expo, on va parler de vous. Vous êtes artiste photographe naturaliste. Vous êtes né en 1968 dans la Sarthe. J'espère que ça n'a pas été un trop gros handicap. Racontez-nous quel type d'enfant vous étiez, déjà très proche et amoureux de la nature. J'imagine quel a été le déclic.
Alors oui, depuis que je suis gamin, en fait, moi, je passe mon temps dans la... Ben, c'était dans le bocage chartois, du coup, à l'époque. Mes grands-parents avaient une petite ferme dans le bocage chartois, près de Tuffé. Et donc, j'y passais toutes mes vacances de gosse, et j'ai eu la chance d'avoir et des grands-parents et des parents qui me laissaient autonome. À l'époque, c'était peut-être plus fréquent qu'aujourd'hui. Donc, je passais dès ma toute petite enfance, hein, dès l'âge de 5, 6, 7 ans, j'étais parti dans les bois, j'étais parti à la pêche, et je passais mes journées à contempler la nature et à rester immergé dans cette nature sauvage, dans ce bocage sauvage. Donc ça m'a profondément marqué. Et puis, de fil en aiguille, en fait, j'ai continué à m'intéresser à la nature, à aller observer les animaux sauvages. Et ensuite, j'ai fait tout naturellement des études de sciences naturelles pour être enseignant de biologie, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs. J'ai été enseignant, mais dans le professorat des écoles. Mais voilà, ces études-là m'ont permis d'acquérir des connaissances scientifiques beaucoup plus précises par rapport à la nature, à la faune, à la flore. Et puis, j'ai voulu témoigner de toutes ces rencontres que je faisais. L'outil que j'ai trouvé pour témoigner de ces rencontres, ça a été assez rapidement l'appareil photographique, en fait.
Vous avez donc évoqué, Éric Médard, votre proximité à l'environnement. Et ça n'est pas une parole en l'air. Ce que vous appréciez, c'est photographier sur le pas de votre porte. Vous n'aimez pas les longues distances ?
Alors, c'est pas que j'aime pas les longues distances, parce qu'évidemment, la faune, certains animaux, certains endroits, certains parcs naturels très loin de chez nous me font rêver comme beaucoup de naturalistes, mais il se trouve que chez nous, on a exactement aussi les mêmes conditions sauvages. En fait, on a vraiment des animaux qui gagnent à être connus, qu'on connaît pas, qui vivent là, juste à côté de nous, et ça m'intéresse énormément de les montrer. D'abord, je m'ennuie jamais de voir, de photographier et de refotographier à nouveau le chevreuil, le blaireau, le renard, qui sont des animaux extrêmement communs qui vivent tout près de chez nous. Donc j'aime aller toujours à leur rencontre, même si j'ai déjà des milliers d'images de ces animaux. D'abord, j'apprends toujours en les observant. Et ce qui m'intéresse, c'est de partager ça et de montrer au grand public que cette faune qui les entoure, là, elle est d'une richesse incroyable, elle est d'une beauté aussi infinie. Et qu'on a vraiment intérêt à réapprendre à les connaître et à les observer, tous ces animaux. D'abord parce que si on ne les connaît pas, c'est ce que je dis souvent, on ne veut pas les protéger.
Éric Médard, un artiste qui réduit son empreinte carbone, bravo. À la bascule du siècle dernier, le numérique a remplacé l'argentique. Comment, personnellement, vous avez vécu cette bascule ? Est-ce que vous faites partie de celles et ceux qui souhaiteraient y revenir ?
Alors non, moi absolument pas. C'est d'ailleurs pendant longtemps quand le numérique est arrivé, j'ai dit oh là là, jamais ça ne sera aussi bon qu'une bonne diapositive. Et puis en fait, je m'étais trompé, comme je m'étais trompé quand l'autofocus est arrivé et qu'à l'époque on travaillait qu'en manuel en me disant mais ces autofocus sont jamais suffisamment précis pour être aussi précis que l'œil en mise au point manuel. Ben je m'étais aussi trompé. Donc aujourd'hui on a même une nouvelle génération aujourd'hui d'appareils photos qui sont arrivées, qui sont des appareils photo hybrides, qui embarquent une quantité d'intelligence artificielle incroyable Et je dois dire que là aussi, c'est une révolution. Et ça me permet de faire des images que j'aurais jamais imaginé faire, ne serait-ce qu'il y a encore 2 ans. Et les appareils que j'utilisais il y a 2 ans m'ont aussi permis de faire des images que je n'aurais pas imaginé faire 10 ans auparavant. Donc ces progrès techniques sont vraiment très très intéressants. Et pour rien au monde, je reviendrai au monde de l'argentique. Parce que vraiment, on fait des images qui sont plus dynamiques, qui nous permettent aussi, on peut photographier aujourd'hui très très tôt le matin, très très tard le soir, à la nuit tombée, hein, ce qui était totalement impensable du temps de l'argentique. Donc on a des conditions de travail aujourd'hui avec le matériel qui sont d'abord plus simples, plus économiques aussi, et puis qui nous permettent vraiment de faire des images qui étaient inimaginables avant en fait.
Éric Médard, vous êtes spécialisé dans la photographie à l'aide de pièges. Alors ce sont des pièges bien évidemment inoffensifs pour les animaux. Expliquez-nous cette technique.
Alors oui, le piège photographique, c'est une approche qui permet de faire des images qu'on peut pas faire autrement. Parce que faire des photos au piège photographique, si c'est pour faire les mêmes photos que ce qu'on fait en étant à l'affût, ça n'a absolument aucun intérêt. Mais par contre, si on veut photographier un animal, par exemple, de très près au grand angle, c'est-à-dire voir l'animal à quelques dizaines de centimètres ou à moins de 2 mètres du sujet, si on veut que l'appareil soit à moins de 2 mètres du sujet, eh bien, on n'a pas d'autre solution la plupart du temps que de mettre en place un système de piège photo. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est juste l'appareil photographique qui est mis en place avec peut-être des éclairages, si on travaille la nuit par exemple, et un système de détection de l'animal qui fait que lorsque l'animal va passer précisément à l'endroit où on veut faire la photographie, eh bien ça va déclencher tout le dispositif. Alors ça implique de bien connaître tous les indices de présence de ces animaux, parce qu'en fait il faut détecter la présence de l'animal ou le passage régulier de l'animal sans le voir. C'est juste par l'étude des empreintes, des crottes, des odeurs parfois, que on arrive juste donc à localiser des endroits qui seront intéressants d'un point de vue esthétique. Donc en fait on a juste un décor, on imagine des éclairages s'il y a besoin ou un cadrage, et on met en place le dispositif qui est extrêmement précis, qui va déclencher un endroit très précis, et il suffit d'attendre que l'animal passe dans le décor, en fait, enfin le décor qui est naturel, hein, mais ce décor qu'on a imaginé dans notre cadrage photographique. Et l'avantage, c'est que comme ça travaille tout seul, bien on n'a pas besoin d'être là et d'attendre des jours et des jours, mais une fois que c'est installé, eh bien les images se feront toutes seules si tout fonctionne. Alors ça paraît simple comme ça, mais en fait c'est une technique qui est extrêmement compliquée et qui est souvent même beaucoup plus compliquée que de travailler à l'affût.
Et je renvoie vers votre site internet, notamment pour découvrir vos œuvres. Vos photographies ont été primées dans de nombreux concours internationaux, dont le prestigieux BBC Wildlife. Vos travaux sont publiés dans de nombreuses revues internationales. Comment vous vivez cette notoriété ? Au départ, c'était un tremplin. Aujourd'hui, c'est une reconnaissance de votre passion ?
Oui, alors la notoriété, je suis pas, c'est pas quelque chose qui me motive vraiment. Ce qui me motive vraiment plutôt, c'est que mon travail soit connu et de façon à tout simplement le vendre pour en vivre. Pour le prix du BBC notamment, ça a été un prix assez intéressant pour moi parce que ça a permis de faire connaître tout mon travail que j'ai pu faire sur l'infrarouge. Donc cette approche photographique nocturne avec des lumières invisibles, enfin invisibles parce que notre spectre du visible n'est pas dans l'infrarouge, et pour les animaux c'est la même chose. Donc ça a permis vraiment de faire connaître ce gros travail de fond qui a été concrétisé par un livre qui s'appelle « Passeur de lune ». Et donc c'est un prix qui m'a fait de ce point de vue-là assez plaisir.
Éric Médard, vous avez publié en septembre 2018 un ouvrage intitulé « Les plus beaux paysages de la Mayenne ». Est-ce que ça répondait à une commande institutionnelle ou à une envie personnelle ?
Non, ça répondait pas à une commande du tout. C'était vraiment une envie personnelle, puisque, comme vous l'avez souligné, je venais de la Sarthe et en bon sartois, je ne connaissais pas la Mayenne. Et donc, ce livre, ça a été un petit peu le prétexte pour moi pour aller découvrir ces différents paysages de la Mayenne, qui sont ceux du coup de mon territoire. Donc, ça m'a permis de mieux comprendre ce département, de mieux le connaître. Et aussi, j'avais fait le constat qu'en fait, il n'y avait pas de livre du tout sur les paysages de la Mayenne, donc c'était l'occasion d'en faire un, et je pense que les Mayennais étaient en attente de cet ouvrage.
Et vous nous offrirez donc une pause nature, P-O-S-E, c'est le titre de votre exposition, une pause nature du 6 juillet au 30 août au Centre Initiation Nature dans le Bois de l'Huisserie à Laval. Que pourra apprécier le public ?
L'idée de cette cette, alors là, c'était une commande hein, du bois de l'Huisserie et puis du département de la Mayenne. Et donc, c'est, l'idée, c'était de montrer la biodiversité du bois de l'Huisserie. Donc, toutes les photographies ont été réalisées dans le cadre de ce travail photographique spécifique sur le bois de l'Huisserie. Donc, on va pouvoir apprécier à la fois des amphibiens, des oiseaux, des mammifères. Toute cette faune en fait qui est présente dans le bois, qui est malgré tout assez discrète et pas si importante que ça. Enfin, on sent que c'est un bois périurbain en fait, hein, sur lequel il y a quand même pas mal de dérangements du fait de la présence humaine assez importante et de l'exploitation forestière aussi. Donc c'était assez intéressant de ce point de vue-là de voir la faune qui était présente ou pas. Alors j'ai pas fait un inventaire exhaustif hein, bien sûr parce que c'était pas l'objet. Et c'était pas, j'avais pas le temps non plus de réaliser un travail comme ça, mais c'était vraiment de mettre de l'accent sur certaines espèces et puis d'essayer de les montrer sur leur plus bel angle.
Je l'ai rappelé en préambule, Éric Médard, vous êtes né en 1968, vous ne pouviez donc pas être dans les cortèges et les manifestations qui réclamaient plus de liberté individuelle. Est-ce qu'aujourd'hui on vous compte parmi ceux qui réclament une meilleure prise en compte de l'urgence climatique et environnementale? Qu'est-ce qu'on fait de bien? Qu'est-ce qu'on fait de mal?
Oui, c'est une problématique évidemment qui me tient extrêmement à cœur, notamment alors évidemment le réchauffement climatique, mais un phénomène, enfin un domaine dont on parle un petit peu moins que le réchauffement climatique et qui pourtant est largement aussi important, je pense. Enfin, de toute façon, les deux ont une extrême importance, mais c'est l'érosion de la biodiversité. Ça, c'est vraiment quelque chose que je suis amené à constater malheureusement quasi tous les jours, en tout cas tous les ans, et tous les ans, je constate une érosion qui est encore plus importante chaque année que l'année précédente. Et quand on s'en rend compte à l'échelle d'une vie, et je dirais même plus à l'échelle d'une décennie, voire à l'échelle d'une année sur l'autre, ça montre à quel point le phénomène est extrêmement impactant et extrêmement inquiétant. Et j'essaye à travers donc mes conférences, à travers mes parutions, à travers mes livres et tout le travail que je suis amené à faire autour de la faune et de la biodiversité, de sensibiliser à ces problématiques-là.
Vous n'avez plus de moucherons qui viennent...
Il y a encore un travail monstrueux à faire, mais ça me paraît indispensable.
Il n'y a plus de moucherons qui viennent se coller sur les objectifs de vos appareils, c'est ça ?
Ouais, ben voilà, c'est un exemple qu'on prend souvent. Hein. Mais il y a un autre exemple que je prends souvent pour essayer de faire prendre conscience de la gravité en fait de la situation dans laquelle on est. En Mayenne, on a une forte production de maïsiculture et de blé. Et donc il faut imaginer que dans un champ de maïs, on a moins de biodiversité que sur le parking d'une grande surface. Donc ce que je dis aux gens, c'est, alors on peut prendre plein d'exemples, mais c'est réel, dans un champ de maïs, il n'y a quasiment rien qui vit à part du maïs, et un sanglier ou un lièvre qui le traverse de temps en temps, et sachant qu'ils sont, ils y sont pas les bienvenus, eh bien on imagine quand on fait un circuit en voiture, quel qu'il soit, à chaque fois qu'on longe des champs de maïs et de blé, on imagine que c'est un parking bétonné. Eh bien voilà ce que ça veut dire en fait en termes de biodiversité, et on peut même dire que si c'était des parkings bétonnés, on aurait sans doute plus de biodiversité sur ces parkings-là, avec quelques arbres parsemés, comme on peut trouver sur les parkings grande surface, que dans un champ de maïs. Donc on imagine dans quel état on met notre campagne mayennaise et française et européenne vis-à-vis de ces problématiques-là.
Avant-dernière question, Éric Médard, pour s'améliorer soi-même, on regarde souvent ce qui se fait ailleurs. Quels sont les photographes, contemporains ou pas d'ailleurs, que vous admirez ?
Il y a beaucoup de photographes que j'admire et notamment des photographes contemporains, des gens qui sont parfois plus âgés que moi et des gens qui sont aussi plus jeunes que moi. Ce que j'aime surtout, c'est les gens qui travaillent réellement à partir d'animaux sauvages, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui produisent de l'image à partir de soit d'affûts payants, c'est-à-dire des endroits qui sont déjà tout préparés, il n'y a plus qu'à y aller pour faire des images. Pour moi, ça, c'est pas de la photographie naturaliste. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord de voir des travaux faits par des gens qui sont avant tout naturalistes, c'est-à-dire qui connaissent très très bien la nature et qui la photographient dans leur milieu naturel avec le plus grand respect. Alors il y a aussi hein, des Américains qui m'accompagnent depuis longtemps, des Anglais également. Donc on a tous comme ça des images qui nous font rêver et qui nous inspirent. Alors l'idée c'est pas du tout de les copier, mais c'est plutôt de s'en servir comme de base d'inspiration pour essayer de créer soi-même ces images et puis d'essayer d'avoir une démarche reconnaissable dans la production de ces photographies.
On termine par la question que je ne vous ai pas posée et que vous auriez aimé que je vous pose.
Ben ouais, je sais pas. Si je prenais mon vélo pour aller faire des photographies, eh bien la réponse est oui. J'essaye au maximum de me déplacer, comme on disait, donc juste autour de chez moi, et quand c'est possible, d'avoir cette empreinte carbone, cette fameuse empreinte carbone la plus basse possible.
Merci Eric Médard.
Merci.
Et j'ajoute un merci moi aussi pour Christophe pour avoir mené cette interview. Et attention, par contre, l'exposition est d'ores et déjà visible. Vous l'avez peut-être déjà vue, vous pourrez toujours la voir tout au long de cet été et même cet automne. C'est déjà le cas en tout cas au bois de l'Huisserie en extérieur. C'est entre le grand parking et l'allée du centre aéré où vous pouvez voir cette exposition photo prise sur le vif d'Éric Médard. On va retrouver la chronique de la Bibli avec un joli conseil lecture pour cet été ou même pour dès à présent. Ce sera après Soumti, Stand My Sister. êtes toujours sur l'autre radio à l'écoute de l'AJT du local. L'autre radio que vous pouvez écouter sur le 107.9, sur le 101.7 ou bien sur l'autreradio.fr bien sûr. Et on poursuit cette émission avec la chronique de ce lundi. Et une fois n'est pas coutume, on retrouve un coup de cœur proposé par la médiathèque du pays de Château-Gontier. En l'occurrence ce lundi, on parle d'un roman policier.
La Bib lit, mais pas que.
Alors qu'il en est à son 15e roman, je découvre Jacques Sausset avec son dernier livre L'Aigle Noir. C'est un auteur de polar français comme je les aime, avec une plume à la fois dépaysante mais particulièrement traumatisante. Et je vais insister sur ce point car les âmes sensibles risquent d'être choquées par certains passages. En ce mois de février 2020 à Toulon, Paul Kessler, ancien commandant de police, est contacté par M. Bourdonnais. Celui-ci lui demande de reprendre du service à son compte et de se rendre sur l'île de la Réunion. En effet, cela fait 3 ans qu'il a quitté l'île pour laisser la gestion de la vanille familiale à son fils Pierre. Mais celui-ci est décédé récemment dans un crash d'hélicoptère. Malgré les résultats de l'autopsie, M. Bourdonnais doute qu'il s'agisse d'un accident, car son fils était un pilote hors pair. Kessler, réticent de reprendre du service, finit par accepter, car la peine d'avoir perdu un enfant, il ne la connaît que trop bien. C'est donc un long voyage qu'il va effectuer pour atterrir à La Réunion sous une chaleur écrasante. C'est Éléonore, assistante du notaire, qui est chargée de l'accompagner jusqu'à la villa des Bourdonnais, où il est logé et propose même de se rendre disponible si celui-ci a besoin de se déplacer sur l'île. C'est d'ailleurs sans tarder qu'il commence à interroger, mine de rien, de ci, de là, les personnes qui pourraient l'éclairer sur les conditions de ce soi-disant accident. Apparemment, ces questions ont piqué la curiosité du commandant de police de l'île qui va aussi, de son côté, rouvrir le dossier et commencer de nouvelles investigations plus officielles. Mais bientôt, un nouveau drame touche les habitants de l'île. Un homme est retrouvé mort suite à une attaque de requins. Est-ce vraiment une attaque ? Car il s'agirait du corps de Jean-Denis, instituteur de l'école du village, qui nage depuis des années dans des endroits à l'abri de tout danger. Et est-ce une coïncidence que cela arrive juste au moment où il vient de convoquer la psychologue scolaire et la directrice de l'école pour une suspicion de maltraitance sur la petite Luna ? En effet, il a remarqué que depuis quelques mois, celle-ci s'est murée dans le silence et dessine inlassablement le même dessin terrifiant. Donc, d'un côté, Kessler va suivre sa piste afin d'en découvrir un peu plus sur le crash, et il va aller de découverte en découverte. D'un autre, la police et la brigade des mineurs vont tenter d'en savoir plus sur la petite Luna. Chacun mène son enquête, pour le meilleur et surtout pour le pire, car la pauvreté est un terreau fertile aux excès de violence, d'alcool et de drogue, et les habitants de cette île paradisiaque cachent des secrets bien gardés. Et pour finir, qui est cet étrange sorcier qui s'est installé il y a 4 ans ? Et pour lequel on va découvrir tout au long du livre le périple qu'il a entrepris depuis son Togo natal, pour devenir ici un sorcier au service du culte de Mahou. Mahou est une divinité créatrice dans la religion vaudou. Ce sorcier s'appelle Sogbé, et il a dû fuir son village car il a commis un crime, et il en commettra d'autres d'ailleurs, car sous l'emprise de la méthamphétamine, celui-ci est vraiment incontrôlable et fait peur à n'importe qui croise son regard. Jacques Sausset est capable de nous décrire la beauté des paysages, montagneux, verdoyants, nous faire imaginer les couleurs, les odeurs, la chaleur, et aussi une nature cruelle parfois, avec des orages impressionnants. Mais de la même façon, il saura aussi parfaitement nous détailler les scènes de crimes ignobles, sanguinolentes, et nous plonger dans l'horreur au fur et à mesure des chapitres. Comme si cet aigle noir recouvrait de son ombre maléfique cette île paradisiaque. Il ne sera pas forcément question de suspense haletant, mais plutôt d'une lecture pour tenter de comprendre comment on en est arrivé là, et vouloir à tout prix y mettre fin. Bien sûr, je vais rester vague sur le fond, mais si vous êtes prêt à attaquer la lecture de ce roman, sachez que c'est une enquête hors norme. Allez, je vous rappelle le titre, L'Aigle Noir de Jacques Sausset. À bientôt.
Merci beaucoup pour cette chronique et ce conseil lecture que vous pourrez évidemment retrouver dans le podcast de cette émission sur l'autreradio.fr. Vous cherchez Agiter du local plutôt à la fin de l'émission et puis hop, vous pourrez renoter toutes les références effectivement de ce livre. Merci beaucoup, puisque ça y est, c'est la fin de notre émission L'Agiter du local pour ce lundi. Restez bien à l'écoute de l'autre radio puisqu'à 19h il y aura Solénoïde. Ce sera suivi à 20h de la discothèque de notre programmateur. Et nous, on revient demain pour un nouvel Agité du local. Je vous souhaite une très belle journée.